enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous voulons continuer avec la parole de Dieu, mais ce soir il y aura un temps de prière. Un temps où nous allons exercer le ministère. Donc nous vous saluons, vous tous qui êtes en contact avec nous actuellement, ceux d'Afrique, au niveau de l'église, de ma femme. Je salue ma femme, ma chère femme qui me voit maintenant. Allez, gros bisous à toi. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse là-bas. C'est une grâce pour nous de pouvoir partager l'excellente parole de la grâce de Dieu. Nous avons commencé à savoir discerner la présence de Dieu. Hier, nous avons vu être conscients de la présence de Dieu et nous avançons vers des choses pratiques. Ce soir, c'est la rencontre de deux présences. Nous allons voir le Gadarénien face au Nazaréen. C'est deux styles. Le Gadarénien face au Nazaréen. Très important. Deux hommes qui sont remplis d'une présence. L'un s'appelle un Gadarénien et l'autre s'appelle le Nazaréen. Et les deux sont face à face. C'est la typologie du chrétien face toujours au diable, que nous allons voir dans le combat spirituel qui nous oppose à la réalité du monde spirituel. Le monde spirituel est réel, il est en les deux parties. Le monde spirituel de Dieu et le monde spirituel de l'ennemi. Jésus a parlé de deux royaumes dans les évangiles. Il a dit, si Satan lutte contre Satan, donc son royaume est divisé. Donc Jésus nous déclare que Satan a un royaume. Et que si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu, le doigt de Dieu, que je chasse les démons, alors il dit en ce moment, le royaume des cieux est donc venu vers vous. Donc il y a deux royaumes, il y a deux représentants, et ce que nous allons voir ce soir, si vous avez vos Bibles, nous allons lire dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, la Bible nous dit, Jésus et ses disciples arrivèrent à l'autre bord de la mer, Marc 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Voici notre lecture ce soir qui nous situe le plan, le gros plan de l'événement. Nous avons donc placé le gros plan de l'événement devant vous. Jésus était donc en tournée missionnaire avec ses disciples. Il a pris une barque et il est arrivé dans le pays des Gadaréniens. Gadara signifie, frères et sœurs simplement, Gadara signifie entouré et enveloppé, emprisonné. C'est ça le mot Gadara. Entouré, enveloppé et emprisonné par l'ennemi. La présence de l'ennemi était tellement forte que le Gadarénien était le type d'habitant dans cette ville-là, où la présence de l'ennemi était très forte dans cette ville appelée Gadara. Et c'est dans cette ville appelée Gadara qu'une autre présence va venir. Que la présence de Dieu, la présence divine va venir à travers un autre homme. Et nous venons de lire ici, c'est étonnant que nous les chrétiens, nous, vraiment, nous ne prenons pas au sérieux ce que Dieu nous dit quand le Saint-Esprit vient à nous. Regardons attentivement ici, je vous décris un homme qui est contrôlé, qui est oint par le mauvais esprit, qui est rempli du mauvais esprit et qui est conduit par le mauvais esprit. Et alors, puisque la lumière, c'est le négatif et le positif qui fait la lumière, si nous voyons le négatif, le positif est réel. Et nous allons voir le cas négatif d'abord, avant de voir le cas positif. Le cas négatif, c'est un homme, un habitant de Gadara, qui un jour, pour une raison ou une autre, a ouvert la porte d'accès de l'ennemi dans sa vie. Peut-être ça a commencé par une simple dépression. Ça a commencé par beaucoup de choses. Et un jour, cet homme était rempli, contrôlé, conduit par un mauvais esprit. Regardez le monde. Ceux qui sont en relation avec les mauvais esprits, regardez combien ils sont conscients de la présence du mauvais esprit avec eux et en eux. Et la plupart des chrétiens ne sont pas conscients de la présence de Jésus avec eux. C'est dommage. Regardons simplement cet homme-là. Il est un homme qui sort des sépulcres. Dès que Jésus est descendu de la barque, cet homme a couru devant Jésus. Et la Bible dit que cet homme-là vivait dans des sépulcres. Sa communion était avec les morts. Quiconque, regardez, chacun a une manière d'habiter. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on vit dans la communauté et on rayonne dans la communauté des vivants. Quand on est rempli donc de l'esprit mauvais, on vit avec les morts, on est en contact avec les morts. C'est deux domaines totalement différents qu'il faut bien saisir. La description est claire devant vous ici, le négatif. Et le positif, on va le voir, la même chose. Alors, il est dans les sépulcres. Il est en communion avec les sépulcres. Il se sent à l'aise dans les sépulcres. Il se promène dans ses tombeaux, dans ses cimetières, il est à l'aise. C'est son environnement spirituel comme cela. Alors, si vous avez le Saint-Esprit, vous n'êtes pas à l'aise dans le monde spirituel de Dieu, dans le royaume de Dieu, quelque chose ne va pas. Ceux qui sont remplis du démon, ils sont à l'aise dans les sépulcres. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne sont pas à l'aise dans le royaume des cieux. Quelque chose ne va pas, frères et sœurs. Deuxième élément de cet homme, non seulement il vivait dans les sépulcres, mais deuxième élément, la Bible dit, et il était possédé, contrôlé d'un esprit impur, rempli, oint d'un esprit impur. Le mot oint, c'est ça. Il est rempli, contrôlé, possédé, dirigé par un esprit impur. La Bible dit que nous, nous sommes baptisés, remplis du Saint-Esprit. Comment un démonisé peut-il être possédé, contrôlé, dirigé? Et nous, nous avons le Saint-Esprit, nous ne sommes pas dirigés, nous ne sommes pas conduits. Alors, quelque chose, il faut bien voir quelle est notre croyance réellement de la présence de Dieu. Les démonisés sont conscients de la présence de l'ennemi, obéissent à l'ennemi, se soumettent à l'ennemi, sont dirigés par l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi les contrôle. Troisième élément de cet homme avait sa demeure, on dit sa demeure. Et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Cet homme avait une force extraordinaire. Regardez bien. Là où le démon rentre, où l'esprit impur rentre, il donne aussi une puissance. Jésus vous a dit que quand lui vient, il vous donne une puissance. Satan aussi dit, quand moi aussi je viens, tu donnes une puissance. La preuve est devant vous ici. Personne, aucun être humain, non contrôlé par le Saint-Esprit. Aucun autre un être humain rempli du Saint-Esprit n'avait le pouvoir de contrôler ce démonisé-là, ce démoniaque. C'est pourquoi vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un qui a des démons par le naturel. Vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un qui a des démons par la psychanalyse. ni par la psychologue. Vous ne pouvez pas. Ils ont essayé de le contrôler. Les hommes naturels, ses parents, ses amis, les gens du village, sont venus avec la capacité naturelle pour contrôler un homme qui est contrôlé déjà par un autre esprit. Un élément, quand ils avaient lié cet homme de chaîne, il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Cela veut dire qu'il a une puissance extra-humaine. Il brisait les chaînes et les fers. C'est-à-dire qu'il avait en sa possession une puissance qui allait au-delà de la puissance humaine. Ça, c'est le négatif. Nous regardons le négatif. Regardons le négatif comme il est. Le négatif est réel. Si le négatif est réel, et le positif? Réfléchissez un peu. Il brisait les chaînes. Et personne n'avait la force de le dompter. Personne. C'est-à-dire qu'aucun être humain, dans le naturel, qui est né dans le naturel, quel que soit, qu'il soit savant, qu'il soit militaire, qu'il soit gendarme, qu'il soit quoi, personne ne pouvait le contrôler dans le naturel. Alors, vous ne pouvez pas contrôler le monde spirituel par le naturel. Vous ne pouvez pas contrôler le monde spirituel par des piqûres qu'on fait. Quand quelqu'un est dans la dépression, quand quelqu'un est contrôlé par des esprits mauvais, les piqûres ne font rien, ne font que l'abattre, le faire endormir. Le rendre plus dépressif. Parce qu'il est contrôlé par quelqu'un d'autre. Il n'est pas contrôlé. Ce n'est pas une maladie physique, biologique qu'on peut voir. Il ne sait pas ce qui se passe en lui. Il y a une force qui le maîtrise, une force qui l'amène à faire des choses que lui-même il n'aurait pas voulu faire. Être agressif à l'égard des gens, être violent à l'égard des gens. Il est contrôlé par une autre force. Et notre monde moderne s'est rempli comme cela. Une fois j'étais à New York, j'attendais le métro, je me suis approché du bord du métro, quelqu'un est venu me dit, hey, messieurs, éloignez-vous du bord du métro. Je dis, mais pourquoi? Il dit, vous voyez tous ces gens qui sont en cravate avec des vestes, ce sont des fous. Au moment où le métro arrive, quelqu'un vous poussera et on va vous écraser. Il s'est rempli de fous. C'est pourquoi il rentre dans le métro et puis il vous dit, cowboy, tire sur les gens. Les gens meurent. Le monde moderne est rempli de fous cravatés. Vous entendez? C'est ça. Ne vous amusez pas. Vous êtes des PDG. Pourquoi un PDG qui a tout, il a quatre voitures, il a des milliards, pourquoi il prend un revolver et met là, il se tue? Pourquoi? Un homme qui a tout, il ne lui manque rien. Il y a une force qui contrôle. Qui contrôle les gens. C'est le gadarénien. Gadara veut dire entouré, emprisonné. Donc, quelqu'un qui n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Et quel était le langage de cet homme-là? Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Criant et se meurtrissant. Il avait un seul langage, les cris. Il criait et il se meurtrissait avec des pierres. Un homme normal qui prend des pierres et se meurtrit lui-même. Personne ne lui jette des pierres. Lui-même, ses propres mains prennent et détruisent son corps. Regardez la plupart des gens qui sont dans la dépression. Ils se détruisent, s'auto-détruisent. Des gens qui sont dans l'angoisse, qui vivent l'angoisse, s'auto-détruisent. C'est la représentation du monde moderne que nous avons ici, sauf que les gens ne vivent pas dans des sépulcres, ils vivent dans des asiles psychiatriques. C'est la même chose. Et dans ces asiles-là, vous entendez quoi? Des cris à longueur de journée. Vous entendez des cris, toutes sortes de cris. Ça n'a pas changé. Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien. Le monde moderne ne peut pas cacher. Écoutez, j'ai dit le jour que je verrai un pays ou une ville développée, je dois avoir trois éléments. Si je vois ces trois éléments dans une ville, dans un pays, ce pays est vraiment un pays développé. Les gens m'ont dit quoi? Premièrement, si je vois un pays où il n'y a pas de prison, c'est un pays développé. Il y a ce pays-là, ça existe? Hein? Il y a un pays sans prison? Ok. Deuxième élément, Un pays sans hôpitaux, c'est un pays développé. Troisième élément, un pays sans cimetière. Alors, si vous trouvez ce pays-là, venez me dire, je vais déménager là-dedans. Je vais prendre ma femme, mes enfants, je vais déménager. C'est le pays le plus développé. Où on ne meurt pas, on n'est pas malade et on n'est jamais en prison. C'est ça la vraie liberté. C'est ça le pays le plus libre du monde. C'est ça la vraie liberté. Sinon, le reste là, laissons tomber, ok. On est en prédication. Il y a des choses que vous devez savoir, frère. Cet homme-là, ses parents ont vu la dégradation de la vie de leur fils. Quand il a commencé à parler, les parents n'ont pas pris ça au sérieux. Ils ont dit non, il passe un moment de dépression, ça passera. Ça ne passera pas. L'ennemi est en train de grignoter sur la vie des gens. Il veut les contrôler. Il veut les contrôler. Et vous voyez la présence de l'ennemi ici. Alors, qui a rendu cet homme-là? Regardons maintenant le verset acte 38, acte 10, 38. Et nous allons revenir, on va aller dans acte 10, 38. Notre ami interprète nous a dit de répéter plusieurs fois, acte 10, 38. Et il a raison car la méthode, la répétition est la méthode pédagogique pour faire passer donc la leçon à ceux qui ne comprennent pas. Acte 10, 38. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Nous connaissons mais nous préférons le lire. Vous savez, c'est Pierre qui parle. Pierre résume le ministère de Jésus quand il était sur la terre. Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, deux mots, Saint-Esprit et force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est le positif maintenant. Regardez la description du positif. Et alors, on peut dire, pour le gadaréen, si on veut prendre ces termes attribués à Jésus, qui concernent Jésus, si nous voulons le mettre sur le gadaréen, on pourrait dire ici, le même gadaréen qu'on vient de voir là, on pourrait dire, car vous savez comment Satan a oint du mauvais esprit et de force ce gadaréen qui allait de lieu en lieu dans les sépulcres et gémissant, criant, car il était sous l'empire du diable, car il était l'empire sous l'esprit mauvais, car le diable était avec lui. Le même verset s'applique au gadaréen. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer ce soir? Je vais vous montrer une chose. Jésus ici est caractérisé, la Bible dit Jésus était un homme. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, il dit cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par des miracles, des prodiges. C'est cet homme-là qui est loin du Saint-Esprit et de force. Et quand le Saint-Esprit vient, la puissance vient, la force divine vient en nous. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut-il dire qu'il est baptisé du Saint-Esprit, il n'a pas de puissance. Ça, jusqu'à présent, je ne comprends pas ça. Je n'ai jamais compris ça. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors, comment des multitudes de chrétiens parlant en langue, la seule chose qu'on connaît en eux, c'est de parler en langue, il n'y a aucune puissance. Voici un homme, un gadaréen, qui était rempli d'un esprit impur. Regardez textuellement ce qu'il fait. Il est au service de son maître Satan et il a la force de Satan. Il a l'onction de Satan. Il brise les chaînes. Et il fait l'œuvre de Satan. Et nous avons le Saint-Esprit. Et nous ne faisons pas, non pas la puissance. Quelque chose ne va pas, frères et sœurs. Quelque chose ne va pas. Asseyez-vous, regardez votre Bible. Mais on a vu les pierres avant la Pentecôte. Sans puissance. On les voit le jour de la Pentecôte. Et après la Pentecôte, on va les voir tout à l'heure là. Vous allez dire, ah, exceptionnellement, on parle de Jésus. Non, on parle de l'homme Jésus. Un être humain rempli de la présence divine. Un être humain conscient que Dieu est avec lui. Pendant 30 ans, Jésus savait une chose, cette présence du Père du divin n'était pas en lui. Il n'a jamais osé chasser un démon, rien. Il n'a même pas osé. Il partait avec Marie à la synagogue, il assistait au culte de la synagogue, mais il n'a jamais essayé de chasser un démon, de faire une guérison. Parce qu'il savait que la puissance n'était pas là. Mais dans Luc 3, 21, il est dit que le temps convenable étant venu, Jésus se rendit au Jourdain. Et là, il a été baptisé par son parent Jean-Baptiste. Lorsqu'il sortit de l'eau, il pria. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme de colombe. Et il entendit la voix du Père. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Luc 4, verset 1 dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4, verset 14 dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revint du Jourdain et sa renommée se répandit tout autour. Luc 4, verset 18, il entra de comme sa coutume dans la synagogue. Il prit le rouleau d'Ésaïe. Il le tourna à Ésaïe 61 et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour envoyer, il m'a oint pour que guérir les cœurs brisés. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il m'a oint pour que les malades soient guéris. Il dit aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Il se rend à Capernaum. Dès qu'il rentre à Capernaum, Jésus oint, les démoniaques se lèvent et disent, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth, car tu es venu pour nous perdre. Les deux présents sont toujours là. Et c'est ça, le christianisme, le crime classique. Le christianisme classique, c'est lorsque vous êtes conscient que le Saint-Esprit est en vous, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous affrontez le monde des ténèbres sans peur. C'est ça le christianisme normal. C'est ça le crime normal. Le reste là, c'est anormal. Tout le reste est anormal. Vous pouvez trouver du judicatif. Vous pouvez faire de Dieu de la dispensation. Vous pouvez faire de la dispensation. Dieu ne peut pas être dans la dispensation. Dieu est au-dessus de la dispensation. Dieu est éternel. On ne peut pas découper Dieu en morceaux. Il n'y a pas Dieu avant Jésus-Christ et puis Dieu après Jésus-Christ. Dieu est hors du temps, s'il vous plaît. Il est hors du temps, il est éternel. Il varie de moins l'infini à plus l'infini. Et les nombres entiers relatifs variant de 1 à n sont pour nous, parce que nous sommes mortels. Dieu est en dehors, borne extérieure, moins l'infini, plus l'infini. Il n'est pas il est en dehors. Il n'est pas dans cette borne-là. Vous ne pouvez pas dire que vous faites des dispensations avec Dieu, que le temps des miracles est passé. Le Dieu des miracles n'est pas passé, le temps des miracles n'est pas passé. Dieu n'a pas... Qui a signé le décret pour mettre Dieu à la retraite? C'est vous? Avez-vous mis Dieu à la retraite? Je ne comprends pas pourquoi les gens disent que le temps des miracles est fini. Le Dieu des miracles n'est pas fini. Montrez-moi le tombeau du Dieu des miracles et je dirais le temps des miracles est fini. Parce que nous avons peur d'affronter le monde spirituel et nous savons que si nous ne sommes pas sûrs, nous ne pouvons pas le faire. Voilà le vrai problème. Nous avons peur d'affronter le monde spirituel. Nous ne voulons pas être dérangés. Nous voulons être des chrétiens simples, ordinaires, assis sur les fauteuils des chauffeurs de bancs. Nous chauffons les bancs. Les bancs disent, mais tu me chauffes tous les jours. Arrête maintenant de me chauffer. C'est ça, frère. Il faut que ça cesse. Et regardons la suite, retournons à Marc, notre texte de base, Marc 5. Alors, nous avons décrit un peu les deux. Donc, le gadaranéen qui est contrôlé, rempli de Satan, qui est rempli de démons, qui a la force satanique, qui fait des exploits sataniques, qui brise les chaînes. L'onction détruit le joug. La Bible dit dans Ésaïe 10, 27, l'onction détruit le joug. L'onction de Satan aussi détruit les jougs. Chaque fois qu'on mettait les jougs sur les pieds du gadaranéen, l'onction de Satan détruisait les chaînes. Et les deux sont face à face maintenant. Jésus descend de la barque. Le gadaranéen rempli de démons, rempli de la puissance de Satan. Regardez le verset 6. Nous sommes dans Marc 5, verset 6. Ayant vu Jésus de loin, oh, c'est extraordinaire, ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant devant lui. Donc le monde satanique sait que l'autre monde est supérieur. Les démons le savent, Satan le sait. Mais ceux qui ne savent pas, c'est les chrétiens. Les seuls ignorants, c'est les chrétiens. Ils ne savent pas, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Regardez, la Bible est claire. Comment cet homme-là, il n'a jamais vu Jésus. Écoutez, frère. Jésus est descendu avec ses disciples. Jésus avait les 12 disciples. Et les femmes qui suivent Jésus. Jésus descend. Quand le démoniaque court, il n'est pas allé s'agenouiller, se prosterner devant Saint-Pierre. Parce qu'il a vu que Pierre n'a rien. Pierre n'avait rien à l'époque. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune présence de Dieu en Pierre. Il ne s'est pas agenouillé devant Saint-Jean. Ni Jacques. Il s'est agenouillé devant qui? Comment a-t-il fait pour reconnaître Jésus? Ce n'est pas écrit sur le front de Jésus, Jésus. Le monde spirituel sait ceux qui ont Dieu en eux. Le monde spirituel sait. Si vous êtes conscient de Dieu avec vous, ils le savent. Ils connaissent votre Père aussi. Quand vous voyez un chrétien crier, « Ah! Au nom de Jésus !» C'est la peur. Oh. Oh, c'est terrible. « Ah! Au nom de Jésus !» C'est pas vrai. En ce temps, il ouvre un œil, il regarde bien. Quand Satan dit, mais c'est moi que tu chasses. Il dit non, c'est Samuel qui a dit de chasser. Hein, c'est Samuel. C'est pas moi. Il dit c'est le pasteur Samuel qui dit de chasser les démons. Il dit ah bon, tu veux m'attaquer? Il dit non, okay. Il recule encore. Satan dit oh, il recule. Après, pop, il se met à courir. Et quand il court avec en lui Jésus. Il fait courir. Quand vous courez devant Satan, vous courez, c'est vous faites courir Jésus. Et Satan est derrière vous. Avec un Jésus en vous, vous courez. Satan est derrière vous, en train de chasser Jésus. C'est dommage, hein? Mais Jésus est en vous, oui ou non? Quand vous tremblez devant Satan, qui tremble? Qui est en vous? La Bible dit dans 1 Jean 4:4 que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est haut. Mais ça, c'est la théorie. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est haut. Mais quand Satan, quand un problème se passe, vous fuyez. Le démoniaque a su. Le démoniaque sait, frère. Les esprits savent qui vous êtes. Quand les filles de Séva, les enfants dans Acte 19, on ne peut pas le lire, les enfants de Séva, un grand souverain sacrificateur, ont décidé de chasser les démons parce qu'ils ont vu les hommes de Dieu chasser les démons. Ils ont cru que c'était simplement une affaire de nom. Le nom de Jésus. Ils ont cru que le nom de Jésus était comme une queue magique qu'on pouvait dresser devant les démons et ils vont partir. Ils n'ont pas su que d'abord, avant qu'on puisse utiliser le nom de Jésus, il faut d'abord avoir la vie de Jésus. Le nom de Jésus appartient à ceux qui sont nés dans sa famille. Si vous n'êtes pas né Peter Smith, vous ne pouvez pas avoir ce nom-là. Vous pouvez être l'ami de Peter Smith, mais pas vous n'êtes pas un Peter Smith. C'est comme cela, frère. Si vous n'êtes pas né du Saint-Esprit, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous ne faites pas partie de la famille de Dieu et vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom de Jésus. Si vous l'utilisez, c'est à votre détriment. Quand ils ont vu le succès de Paul et de Silas et des autres, ils ont dit, mais tiens, c'est une manière que nous allons avoir pour procéder. Et ils ont vu un démoniaque. Ces 7 enfants jeunes, bien forts, sont allés pour chasser les démons de ces démoniaques-là. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Vous entendez? Ils ne croient pas. Ils disent au nom de Jésus que Paul prêche là, nous vous ordonnons de partir. Les démons ont dit, mais nous connaissons Jésus. Nous le connaissons. Vous entendez? Les démons connaissent. Ils vous affirment, c'est les démons qui disent ça. De temps en temps, soyez informés par les démons, même s'ils mentent tout le temps. De temps en temps, ils sont obligés de dire la vérité. Il dit, nous connaissons Jésus. Et nous connaissons aussi cet homme appelé Paul. Car lorsque nous le regardons, nous voyons la présence de Jésus en lui et avec lui. Nous l'avons attaqué plusieurs fois, mais nous avons vu qu'il a une présence en lui qui est tellement réelle que nous avons fait demi-tour. Mais quand nous avons pris nos loupes, et nous vous avons regardé, vous, on n'a pas vu Jésus en vous. Vous êtes comme nous. Alors, ils ont pris un mètre ici, l'autre ici, et puis ils les ont maltraités, ils ont couru tout nus. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a un démon face à un homme naturel, l'homme qui a le démon est supérieur à l'homme naturel. L'homme qui a le démon est supérieur à tout homme naturel, ou bien un homme qui a peur. Frère, il est important que nous regardions ce que la Bible dit. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna et s'écria d'une voix forte. Il s'écria, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. La présence de Dieu tourmente les démons. La présence de Dieu en vous tourmente les démons. La présence de Dieu en vous, écoutez frère, la présence de démons, la lumière, les démons sont dans les ténèbres. Et vous, vous êtes la lumière, vous ne le savez pas. C'est pourquoi il y a des gens qui vous haïssent dans les bureaux sans cause. Parce qu'ils sont dans des sectes ésotériques, dans des clubs bizarres. Dès que vous rentrez seulement, votre présence, il y a une haine contre vous. Parce qu'ils ont une force en eux, ils ont des ténèbres en eux. Et votre lumière les dérange. Mais très souvent, vous n'êtes pas conscient de cela. Il dit, tu me tourmentes, tu nous tourmentes, Jésus. La présence de Dieu, frère, tourmente les démons qui sont dans les gens. Et les amène à poser certains actes violents contre vous. Tu nous tourmentes. Et ils ont crié. La Bible dit ici, car Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur. Et Jésus lui demanda, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Légion. Nous sommes nombreux, plusieurs. Et ce démon chef priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Jésus le leur permit, et les esprits impurs sortirent. Oh, des démons qui prient sont exaucés. Et des chrétiens prient, ils ne sont pas exaucés. Mais oui, les démons. Papa Jean, ils ont prié. Ils ont prié Jésus. Il ne faut pas dire que Mamadou a amené la doctrine de prier des démons. Il ne faut pas dire ça. Hein. Je n'étais pas dit que c'était une doctrine. Mais les démons ont prié Jésus, ont demandé à Jésus la permission d'entrer dans des porcs. Jésus le leur permit. Jésus leur permit. Et ils sont entrés. Ça, c'est très important. Jésus leur permit. Alors, frères et sœurs, si Jésus permit à des démons qui l'ont prié d'entrer là, et toi et moi, fils de Dieu, nous prions Dieu, et ils ne sont pas exaucés. C'est la connaissance. Les démons connaissent le monde spirituel de Dieu. Les démons ont une connaissance qui fait qu'ils savent que face à Jésus, ou quiconque a Dieu en lui, quiconque a le Saint-Esprit en lui, ils sont minoritaires, ils sont perdants, ils le savent. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que vous le savez ça? Les démons savent, le monde spirituel sait. Ils savent que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est avec eux. Mais est-ce que nous le savons? Le problème, est-ce que je le sais? Est-ce que je le vis? Est-ce que je suis conscient de cela? Jésus était conscient. Après la Pentecôte, les apôtres ont été conscients de cette présence-là. Ce n'est pas seulement Jésus. Regardez les apôtres. Plus tard, on va avancer. Les apôtres, quand nous regardons, j'ai pris quelques notes pour voir là. Et les apôtres maintenant, quand Jésus a parlé, les démons sont partis, le troupeau a été détruit. Quand les habitants de Gadara sont venus, ils ont vu l'homme assis, vêtu dans son bon sens, ils furent effrayés et ont demandé, regardez, ils ont eu tellement peur qu'ils ont demandé à Jésus de quitter leur pays. Les démons ont demandé à Jésus, ne nous chasse pas hors du pays. Jésus a dit, ok, vous ne partirez pas hors du pays. Mais quand les habitants sont venus, il y a tellement de miracles de prodiges qui offensent tellement les chrétiens, qui sont tellement offusqués qu'ils vous chassent, ils ne croient pas. C'est la même chose ici avec les Gadaréniens. Vous avez l'air de croire que tous les chrétiens aiment les miracles et les prodiges. Oh, c'est pas vrai. Voici un homme. Les gens auraient voulu qu'il reste simplement dans ses sépulcres et qu'il continue à crier. Comme ça, on peut le dominer. Vous comprenez? On dit, oui, mais c'est le fou là. C'est le fou. On le connaît. On le connaît. C'est le fou de Gadara. Vous savez, c'est le fou. Les gens aiment ça. Mais dès lors où le Saint-Esprit vous change, le Saint-Esprit vous amène à être quelqu'un de nouveau, les gens commencent à vous haïr. Les gens n'aiment pas ça. Ils veulent que vous soyez dominés et qu'on vous méprise. Quand un alcoolique, un père alcoolique, tombe en permanence, honnit sa famille, quand un père alcoolique ne n'arrive pas à prendre soin de sa famille, ce jour, quand cet homme la rencontre Jésus, il devient un homme honnête, tout le quartier se rebiffe contre lui. Car son changement choque les gens. Ils auraient voulu qu'il soit le toujours le même alcoolique qui tombe là, qui se ridiculise et qu'on humilie. Les gens n'aiment pas le changement que Dieu produit en nous. Ils n'allaient pas supporter ça. Quand on dit, ce jeune homme était un ancien gang, il tirait sur les gens, il ne respectait personne, il devient un champion, un one man, show. Mais si on dit, demain il est changé, il est devenu doux comme un agneau, en deux, les gens n'en veulent plus. Regarde le monde est bizarre, hein? C'est comme ça que le monde est. Tant que vous êtes dans votre caractère, tant que vous êtes dans vos défauts, tout le monde, les gens savent qu'ils sont supérieurs à vous, ils vous méprisent, ils rient de vous. Mais dès que vous changez, vous rencontrez Jésus, tout le monde commence à dire non, ce n'est pas normal. On aurait voulu que tu sois resté. C'est ça les gens de Gadara. Quand ils sont venus trouver cet homme-là assis, vêtu, dans son bon sens, ils ont été effrayés. Quand il lançait les cailloux, personne n'est effrayé. Quand il se détruisait avec les cailloux, tout le monde riait. Tout le monde riait. Mais que ce même homme soit assis comme eux, vêtu comme eux, raisonnant comme eux, il ne peut pas supporter. Beaucoup de gens ne supportent pas les miracles de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne supportent pas la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Ils ne supportent pas. Ils trouvent, ils sont agressifs, ils vont critiquer. C'est une secte. C'est une secte. Ah oui, mais il ne faut pas croire. Ce n'est pas vrai. Les miracles ne sont pas réels. Parce qu'ils n'arrivent pas à absorber. C'est trop pour eux. Cette révélation devient trop. Il ne peut pas absorber cette vérité. Il devient agressif. Alors ce soir, vous qui êtes ici et vous qui nous suivez sur votre ordinateur, quelle est votre réaction face à ce que nous venons de voir, ce combat spirituel-là, qui a amené simplement cet homme à être libéré de l'emprise de Satan? Allez-vous réagir comme les gens de Gadara? Allez-vous dire, mais ce sont des histoires, tout ça là, c'est pas vrai. Mais les gens de Gadara ne pouvaient pas dire le contraire. C'était une réalité qui était là. Ils ne pouvaient pas nier. Alors la seule chose, ils ont dit à Jésus, quitte notre ville. C'est pourquoi aujourd'hui, les églises ont mis Jésus au dehors. Jésus, tu nous déranges, sors de là. Nous voulons un Jésus dans le berceau. Il est né le divin enfant. Mais nous ne voulons pas le puissant Jésus. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas Jésus le puissant. Nous voulons le petit Jésus. Là, on le prend dans nos mains. On le dit, petit enfant. Dodo, l'enfant dodo, l'enfant dormi, à bientôt. On aime ça. On veut manipuler Jésus. On veut Jésus, un petit Jésus. Mais le Jésus tout puissant. Le Jésus qui marche et qui chasse les démons. On ne veut pas de lui. Parce qu'il nous dérange. Il nous dérange. Il dérange notre foi. Il dérange notre repos. Il dérange notre raisonnement. Il dérange notre compréhension. Et pourtant, sans cela aussi, vous ne pouvez pas avoir deux Jésus. Il n'y a pas deux Jésus, il y a un seul Jésus. Le Jésus qui a changé votre vie. Comment a-t-il fait pour changer votre vie? Parce qu'il est puissant. Soyons raisonnables. Acceptons le Jésus entier. N'acceptons pas un tiers de Jésus, ni un demi-Jésus. Ça n'existe pas. Jésus, c'est la plénitude. Acceptons-le entièrement. Il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Acceptons-le tel quel. Et c'est pourquoi, quand nous regardons et quelques éléments, regardons maintenant, après la Pentecôte, regardons un simple diacre qui s'appelle Philippe. Un diacre qu'on a élu. Et il était parmi les 6 qu'on a élus, parce que les apôtres ont dit, nous voulons prêcher et prier. Choisissez parmi vous 6 personnes qui ont un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et Étienne, Philippe ont été choisis parmi les 6. Et nous prenons Philippe simplement, un diacre qui servait à la table, servait à la Sainte Cène, qui s'occupait des choses matérielles de l'Église. Quand la persécution a eu lieu, donc ils sont partis. Philippe arrive maintenant en Samarie, dans Acte 8. Dans Acte 8, et au verset 5, Acte 8, verset 5, la Bible dit, Philippe, qui Philippe? Ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'apôtre, Philippe le diacre. L'homme qui sert à la table le dimanche, il sert à la table ici, comme les diacres ont servi, et les responsables ont servi à la table. C'est cet homme-là qui arrive en Samarie. Mais il arrive en Samarie avec quelque chose de précieux, la présence de Dieu en lui. Parce que la Bible dit que Philippe était rempli du Saint-Esprit de foi. Rempli du Saint-Esprit. Donc, Philippe a transporté la présence de Dieu. C'est ça que les gens ne savent pas. Chaque fois que vous marchez, partout où vous allez, vous êtes transporté de la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était l'arche qui transportait la présence de Dieu. Quand on a mis l'arche, cette boîte cubique, quand on l'a mis dans la maison de Dagon, le roi des Philistins, quand on a mis l'idole de ces Philistins, quand on a mis cette arche simplement qui représentait la présence de Dieu, Dagon est tombé sur sa face. Dagon a commencé à adorer l'arche. Une simple boîte qui représente la présence de Dieu a fait tomber une idole. Et vous êtes cette arche aujourd'hui, vous marchez avec cette présence de Dieu. Quand vous allez de lieu en lieu, vous transportez la présence de Dieu. Vous êtes les transporteurs de la présence de Dieu. Mais allez, commencez à croire à ça. Pourquoi? Mais si ce n'est pas cela, vous n'êtes pas chrétien. Si Dieu n'est pas en vous, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes tout sauf chrétien. C'est pas en venant ici. Je vous ai dit que les chaises sont aussi chrétiennes que vous. Les chaises connaissent tous les chants de Samuel ici. Être dans un bâtiment, c'est pas être chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui transporte la présence de Dieu avec lui et en lui et il en est conscient. Quand il arrive quelque part, il veut faire telle chose, il dit, je ne peux pas faire ça car j'ai la présence de Dieu en moi. Il refuse. Il refuse. Parce qu'il sait qu'il transporte la présence de Dieu en lui. Et quand un homme est comme ça, Dieu va l'utiliser. Dieu aura confiance en lui. Mais quelqu'un qui méprise la présence de Dieu, qui prend son corps et fait ce qu'il veut, quand il veut la puissance, Dieu dit non, tu méprises ma présence, tu n'auras pas ma puissance. Les deux sont payés. Présence, puissance. Celui qui honore la présence va être utilisé par la puissance. Mais celui qui refuse la présence, ne verra jamais la puissance. Bien-aimés frères, nous sommes les transporteurs de la présence de Dieu. Et Philippe est arrivé là. Et il a provoqué une croisade d'évangélisation. Étant descendu en Samarie, il prêcha le Christ. Il n'a pas fait d'école biblique. La seule chose, il sait que Christ est vivant. Il a prêché aux Samaritains que Jésus est vivant. On n'a pas besoin d'aller à l'école biblique pour savoir que Jésus est vivant. On n'a pas besoin d'aller à l'école biblique pour aller prêcher dans les villages que Jésus est vivant. On n'a pas besoin. J'ai commencé en tant que directeur d'entreprise à aller dans les villages. J'étais responsable de supermarché. Je me promenais. Quand j'ai fini, je partais pour prêcher aux gens que Jésus est vivant. Et je voyais Dieu guérir des gens, Dieu sauver des gens. On n'a pas besoin. Je n'ai pas fait d'école biblique, mais je prêchais, je voyais comme Philippe. Il prêcha, et la Bible dit ici, quand il a prêché, les foules tout entières étaient attentives, verset 6, à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. La présence de Dieu en Philippe a amené les démons à sortir des hommes. Quand Philippe était en face des foules, les deux présents étaient face à face. La présence de Dieu en Philippe et la présence des démons du Satan dans les hommes. Et même dans un homme aussi faible que Philippe, qui n'était pas Jésus, mais comme il avait Jésus en lui, alors, quand il a commencé à prier, les démons ont fui. Donc, quelle que soit votre faiblesse, si Jésus est en vous, vous êtes conscient, vous pouvez faire la même chose. C'est la même chose pour vous, frère. Mais si vous refusez ça, vous serez un chrétien seulement, visiteur d'église. Vous serez un chrétien qui viendra à tous les enseignements, mais quand vous serez au dehors, vous ne serez pas utile. Soyez utile à Dieu au dehors et venez à l'église pour rendre témoignage de ce que l'enseignement qu'on vous a enseigné, vos pasteurs vous ont enseigné, vous les appliquez au dehors. Et les pasteurs seront heureux de savoir que ceux qui sont là, qui entendent, appliquent au dehors. Et vous serez des aides précieuses pour les pasteurs. Vous serez des aides précieuses pour les pasteurs. Vous voyez là, frère? Et même il y avait un magicien en Samarie, et qui étonnait toute la ville, qui étonnait toute la foule. Et les gens disaient, ça c'est la grande puissance de Dieu. Mais quand ils ont vu la puissance réelle de Dieu en un homme appelé Philippe, même le magicien a su que la puissance qu'il avait était une force puissante. Il l'a mis de côté. Un diacre qui fait cela. Quand j'ai lu cela, j'ai compris. J'ai dit, mais pourquoi, qu'est-ce que les chrétiens attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Il n'y a que la peur qui soit dans les entrailles. La peur dans les entrailles. Pas autre chose. La peur d'être rejeté, la peur d'être honni. C'est la seule chose qui vous paralyse. Pas autre chose, frère. Le Jésus, il est en vous. Regardons un autre homme. Un homme qui était méchant, cruel. Il s'appelle Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, regardons lui aussi. Un jour, on lit dans Acte 13. Ce Saul de Tarse qui est devenu plus tard Paul, un jour il partait avec Barnabas, il évangélisait. Et quand ils sont arrivés, Acte 13, verset 6. Quand ils sont arrivés dans une ville, la Bible dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Ce prophète-là, ce faux prophète avait quelqu'un qui est en lui, qui contrôlait sa vie, qui s'appelle Bar-Jésus. Et Paul avait en lui le vrai Jésus, pas Bar-Jésus. Pas Bistro-Jésus. Lui, il avait un Bar-Jésus. Un Jésus de Bar. Et Paul avait un vrai Jésus, le Saint-Jésus en lui. Donc les deux Jésus sont face à face. Le Bar-Jésus et le Saint-Jésus. Et ce magicien était en train de contrôler la vie d'un chef de la ville. Quand Paul et cet homme-là voulaient entendre l'évangile, quand Paul est parti pour parler à cet homme, alors Élimas, le magicien, le bar Jésus, a commencé à refuser, à repousser Paul. Alors Paul s'est arrêté simplement. Paul s'est arrêté à regarder. Regarde la Bible, ce que la Bible dit ici. Verset 9. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, vous entendez? Il est rempli de Jésus. Il a fixé par Jésus, sans peur. Il l'a fixé. Et il regarda et fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait à tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Vous entendez? Comment pouvez-vous toucher les gens dans les quartiers? Comment pouvez-vous toucher les gens dans les villages? S'il ne voit pas la présence effective, manifeste de Dieu en vous et avec vous. Comment? S'il ne voit pas à travers l'imposition des mains. Regardons la suite pour terminer. Marc 16. La Bible dit dans Marc 16, voici les signes, les prodiges, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, les croyants. Ceux qui auront cru. J'ai commencé à voir les signes, les prodiges, quand j'étais un nouveau chrétien assis sur les bancs, là. Pas quand je prêchais. Non, c'est ça qui m'a amené à être prédicateur plus tard. C'est sur les bancs. J'étais assis là, quand le pasteur prêchait, il disait ça. J'ai dit, mais tiens, si Jésus dit la vérité, alors moi je veux croire. J'étais baptisé du Saint-Esprit, je venais à l'église. Mais le dimanche après-midi, il y avait l'évangélisation dans l'église. Et le pasteur nous donnait des traités, on sortait autour de l'église, dans les ruelles, et on invitait les gens. Les gens nous insultaient, les gens nous rabrouaient, mais on n'a pas peur. On était conscients que Jésus est avec nous. Et c'est là que j'ai commencé à voir, dans les rues de Toulouse, la puissance de Dieu se manifester. J'étais un jeune converti. J'ai commencé à voir que Dieu est en moi et est avec moi. Je n'ai pas attendu 15 ans à l'église avant de devenir un témoin de Christ. Il dit, allez. Quand il a envoyé les disciples, aucun n'était prêt. Aucun n'était parfait. Quand il a envoyé les disciples, aucun n'était parfait. Il venait de les trahir il y a 50 jours. Tous étaient culpabilisés, mais il les a envoyés. Ils n'ont pas été prêts, ils n'ont pas été parfaits. Au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu, vous grandissez. Vous entrez dans la maturité. Mais si vous ne faites rien, jamais Dieu va vous utiliser. Donc, faites, priez pour les gens dans votre maison. Votre petit-fils a des maux de tête, posez les mains, invoquez le nom de Jésus. Priez vous-même. Vous allez savoir si Jésus est en vous, oui ou non. Vous n'avez pas besoin de réveiller le pasteur à 1h du matin parce que vous avez des maux de tête. Vous avez deux mains, non? Posez vos mains sur votre tête, dites au nom de Jésus. Mais, quand j'ai des maux de ventre, j'ai mis mes mains ici. Il dit, ils imposeront les mains aux malades. Qui? On a dit quelqu'un d'autre? Ils imposeront les mains aux malades. Qui? Les croyants. Je suis un quoi? Je suis un croyant. J'impose les mains sur moi. Au nom de Christ Jésus, je prends autorité sur les maux de ventre. C'est fini? On est les croyants. Ou bien, je suis quoi? Je suis un croyant? Je suis croyant. Croyez, ils imposeront les mains. Et la Bible dit dans Marc 16, 20. Alors que les disciples partirent, et le Seigneur, ils ont prêché la parole, et le Seigneur les accompagnait. Accompagnait. Comment ils ont su que le Seigneur les accompagnait? Ils ne le voient pas physiquement. Jésus n'était plus là. Mais par les signes, les prodiges que les apôtres ont vus, que les disciples ont vu, ils ont su que Jésus était avec eux. Comment saurez-vous que Jésus est avec vous? Puisque physiquement, il n'est pas là. C'est en allant, frère. Jeunes gens, en allant. L'année dernière, nous avons passé dans l'église. Chaque année, nous avons un nom pour notre année. L'année dernière, c'était donc l'année de l'onction et de la vision. Cette année, c'est l'année de la mission, de l'invasion et de l'impact. L'année dernière, nous avons dit à tous nos jeunes gens, les femmes, les filles comme les garçons, on les a envoyés dans les brousses, dans les quartiers. Ils sont allés prêcher simplement dans les villages. Ils ont eu 10 500 convertis. Ils ont vu des aveugles, ils ont vu des sourds, ils ont vu des choses. C'est là, les documents sont là. Ils ont vu ça, des chrétiens. Et nous, les pasteurs, on n'a pas bougé. Ce sont les jeunes de l'église qui sont allés. On a demandé que chaque samedi matin, tous ceux qui ont les voitures amènent les voitures à l'église. Ils ont amené les voitures et chaque voiture prenait au moins 4 personnes. Et c'est avec ça que les gens sont allés dans les villages, dans les villes pour évangéliser. Cette année, c'est l'année de l'invasion chez nous. On appelle ça l'année de l'invasion. Nous avons ouvert plusieurs églises en 2007 à cause simplement de ce que les jeunes gens sont allés évangéliser. Ils sont allés évangéliser. De porte à porte, dans les marchés, on les a parfois rabroués, on les a chassés. Mais ils sont restés fermes, ils ont été polis, ils n'ont pas été impolis avec les gens. Ils n'ont pas forcé les gens, ils ont montré de l'amour de Dieu aux gens simplement. Bien-aimés frères, Jésus a dit d'aller. Il faut savoir, il faut dire à Dieu, ne me dites pas qu'en Europe on ne peut pas aller. Il y a plusieurs manières d'aller. Asseyez-vous et regardez, Jésus vous dira comment aller. Dans les hôpitaux, un médecin, nous avons dit aux médecins, nous avons dit aux ingénieurs, mais là où vous êtes là, C'est vrai que vous ne pouvez pas parler de Dieu tout le temps, vous êtes là pour travailler. Mais Dieu, chaque matin, quand vous priez, dites au Seigneur, avant d'aller au service, donne-moi l'opportunité, mets devant moi aujourd'hui la personne qui a le plus soif et faim de toi dans mon service. Il y en a toujours. Des gens se réveillent chaque matin, ils crient le nom de Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrivera aujourd'hui? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour me lever sur le pied gauche, comme si le pied gauche était mauvais. Non, c'est terrible. Non, les gens sont comme ça. Alors, ce sont des gens qui cherchent Dieu. Et soyez attentifs. Soyez, quand vous avez prié le matin, Seigneur, donne-moi d'être un témoin aujourd'hui. Il se peut que, à un moment de pause, avec vos camarades de service, vous allez voir quelqu'un qui est assis, qui se tient à la tête, et ah, oula, j'ai des migraines terribles. Vous asseyez, vous parlez, oh là là, mais j'ai pris des comprimés, ça ne va pas. Mais soyez courageux, demandez, est-ce que je peux prier pour vous? Et peut-être elle va rire. Elle va rire dans un premier temps. C'est comme cela que j'ai fait. Et j'ai commencé à prier pour les gens. Ils ont dit, mais tiens, quand tu as prié hier, mes migraines sont partis. Ah, mais votre affaire est vraie alors. Mais c'est ainsi, tout doucement. Je n'ai pas dit d'aller envahir les gens, les agresser. Mais dites à Dieu, crée une opportunité. J'ai vu des gens convertis dans l'avion. Entre New Delhi et Roissy, j'ai vu une dame totalement dans la dépression, être totalement guérie, là, dans l'avion, avec un document que je lui ai donné. Donc, demandez à Dieu, frère, les étudiants, les élèves, vous allez, mais les étudiants viennent vous proposer, les autres étudiants non chrétiens viennent vous proposer de la drogue. Vous proposez leur l'évangile. Pourquoi ceux qui vous proposent la drogue sont plus courageux que vous? Pourquoi ceux qui viennent vous proposer de la pornographie sont libres de venir vous donner des journaux pornographiques et vous n'êtes pas capable de donner le journal graphique? Vous avez peur de donner la Bible et le Nouveau Testament. Et lui, il vient vous donner des journaux pornographiques. Il n'a pas peur. Il dit, mais tiens, lis, regarde. Et oui, tu acceptes ça. Et tu dis, bon, moi je n'aime pas ça, mais pourtant tu ouvres un œil, tu regardes. Soyez courageux là. Soyez courageux. Ne dites pas qu'on a dit que nous sommes des laïcs. Écoutez ce mot, la laïcité. Tout le monde est laïque. Moi, je suis laïque. Je ne suis pas un religieux. Vous avez vu une croix sur moi? Vous avez vu une grosse croix ici? Je ne suis pas un religieux. Je suis un laïque. Jésus était laïque. Jésus était religieux. Il était dans quel ordre? Dans quel ordre était Jésus? Hein? Quel ordre? Ah bon? Tu as vu dans la Bible l'ordre de Jésus? Tout le monde est laïque. Dieu n'est pas religieux, Jésus n'est pas religieux, le Saint-Esprit n'est pas religieux. Pourquoi tu es religieux? Non, soyons honnêtes là. Mais quand papa Jean, il me raconte son témoignage, c'était quoi? C'était un commerçant. Et quand il me raconte, je suis content car j'étais commerçant aussi. Et notre témoignage est réel. Mais pourquoi il plaçait les marchandises et il arrivait à placer un seul mot et les gens disaient, mais les gens ont tellement besoin de Dieu aujourd'hui, frère. Vous avez peur alors que le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin de Dieu. Les gens ont des maux de dos, les gens ont des maux de ventre, ils sont fatigués. Ne les agressez pas. Demandez la sagesse à Dieu, au Saint-Esprit. Il va vous dire ce qu'il y a à faire. Il va vous dire ce qu'il y a à faire. Et vous pouvez gagner une seule personne. Peut-être tous les mois ou tous les 3 mois dans l'année, vous avez 6 personnes que vous avez amenées à Christ. C'est suffisant pour vous? Tu es chrétien depuis des années, tu n'as même pas amené quelqu'un à Christ. C'est pas normal. Alors que Christ est en toi. Soyons courageux. C'est le courage qui nous manque. Vous avez de très bons enseignements ici. On vous a tout donné, ils vous ont tout donné. Tous les enseignements sont là. Le papa, Samuel, tous les pasteurs qui sont là vous ont enseigné. Mais il faut aller maintenant, frère. Demandez au Seigneur le matin, je vais aller pour faire telle chose. Alors, et vous verrez que Dieu est avec vous. Le Seigneur vous gardera et vous conduira. Nous avons terminé.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.